la fête du Sacré-Cœur, c'est dans 8 jours. Disons, si on compte, ça fait 9 jours au total entre aujourd'hui et le 28. Mais ça fait déjà plusieurs jours qu'on célèbre la messe dans l'intention d'ouvrir un chemin où rien ne nous arrête pour nous engloutir dans le Sacré-Cœur de Jésus, de Marie et dans l'amour éternel du Père aussi. Dans le monde ancien, quand on voyait des sculptés comme ça dans le bois, ou le cœur de Jésus, même si on avait un esprit d'enfance très limpide, c'est vrai, ces statues en plâtre là-haut, c'est pas ça. Dans le monde ancien, d'accord, t'es pas contre, hein, parce qu'on a l'amour du Christ, on a l'amour de Jésus. Mais je n'ai pas souvenir qu'on ait percevé l'attraction inouïe, gigantesque, la toute puissance de Dieu, dans ce que représente justement le règne du Sacré-Cœur qui doit se répandre dans la Jérusalem après, dans la Jérusalem de dès cette terre, dès lors qu'on puisse y pénétrer immaculé. Cette perception, il me semble, je ne me rappelle pas que l'avoir entrevu, pour moi-même, mais aussi partout dans les témoignages, il y a quelque chose qui se prépare. Il y a une grande préparation pour le. La toute puissance de Dieu dans un vase d'argile. Ça manifeste comme ça. Et Jésus parle du cœur, c'est rare hein, que Jésus parle du cœur dans un évangile. Et si ton cœur est dans la ténèbre, là où est ton cœur, c'est ton trésor. Hein. Et ton trésor, c'est la puissance de Dieu manifestée dans ce qui est le plus fragile dans le monde spirituel. Et c'est-à-dire. Le cœur du Christ. La fragilité maximum du monde spirituel, c'est le cœur de Jésus. Le cœur du Christ, le cœur de Marie, le cœur de Jésus, de Marie. Leur trésor dans l'extrême faiblesse. La détresse, la faiblesse maximum. La toute puissance de Dieu. On le sait, mais quand Saint Jean, à force, il devait avoir environ 18 ans à peu près, à force, ces 8 ans ont été une transformation continuelle. Parce qu'il avait reçu, je crois, la bénédiction de la sanctification qu'avait connu Jean-Baptiste. Ça, je pense très, très sincèrement, très, ça me paraît clair, quoi. Dans la lumière, ça me paraît clair. été sanctifié dans le sein d'une grâce chrétienne. Une grâce surnaturelle chrétienne. Une grâce rédemptrice surnaturelle chrétienne. Une grâce continuellement transformante. Et au bout de sa 19e année, cette grâce, opérant en lui quand même la disparition du monde ancien en lui, de le monde nouveau, des trésors de la toute puissance de Dieu à l'intérieur, de l'amour incarné de Dieu dans le Christ, une porte s'ouvre, et il pouvait voir s'ouvrir cette porte dans l'amour mutuel qu'il y avait entre Marie et Jésus. Entre la mère et Dieu qu'elle engendre dans le Christ. Il a pu percevoir les portes qui s'ouvrent, cette prière qu'on fait après chaque évangile. Que l'évangile se répande partout jusqu'à la fin. Et que ceux qui sont dans cette limpidité, cette transparence du monde nouveau puissent voir d'ouvrir les portes de la Jérusalem éternelle. Des espaces de lumière vivant circule, court et vol sans entrave en eux qui sont immaculés. C'est une terre de main vivante, une terre de main vivante. Quand Saint Jean s'est retrouvé là, il le dit lui-même, c'était à un moment donné quelque chose s'est ouvert en lui. Il a vu les portes s'ouvrir. Il a pénétré en dessous, au fond, dans les profondeurs de la toute puissance de Dieu à l'intérieur, de la fragilité plus que substantielle. Du Verbe incarné. Et alors, il est allé jusqu'au fond, et Jésus a vu que a reçu, je veux dire, il a reçu le disciple qu'il aimait, et il l'a macharé. Il a fait sourdre de ses trésors du Sacré-Cœur. De Jésus, ne faisant pas encore surabonder toutes les plénitudes, mais les premières gouttes délicieuses de ces parfums caressants. Et donc, quelque part, il y a eu une circulation dans le monde nouveau. Et c'est pourquoi, nous le savons, il a pu dire. Maintenant, le Fils de l'homme est glorifié. Il a dit à cette minute-là. Il n'a pas dit à la dernière minute de son ascension. Hein. Il a dit là. Voyez, on a lu à l'aude le psaume 21. Et en lisant le psaume 21, j'imagine Saint Jean pouvant circuler librement dans la plénitude de lumière de Marie à partir de cette macharisation, de cette unité, quoi, qui fut le dépassement de toute puissance de Dieu à l'intérieur du sacrement de Jésus disparaissant et eux tous recevant de lui. La toute puissance de Dieu d'amour dans le Sacré-Cœur de Jésus. qu'à trois en un endroit. Déployer tout ce qu'il a vécu dans la Torah, accompli, et en particulier les psaumes, et plus précisément encore, bien sûr, entre autres le psaume 21. Le psaume 21, il vit dans le psaume 21, le mystère de la croix. Il a vu chaque instant lumineuse, vivante et incarnée, chaque instant de sa croix, chaque instant de sa passion, chaque instant de son agonie. Cette détresse inouïe, cette fragilité inouïe. Et la sagesse incarnée, mais la sagesse incarnée, la sagesse de la croix. Et l'incarnation de la sagesse de la croix. C'est-à-dire que toute la malédiction, enfin, toute la souffrance, tout le châtiment, toute la peine, toute l'humiliation due au péché, il en est l'incarnation. La fragilité totale, tota vita Christi, crux fuit, toute la vie de Christ. La croix, le martyr, atque martyrium, dit Saint Bernard. Alors, Saint Jean, lui, il le perçoit mille fois plus que Saint Bernard. Il me perce les mains et les pieds. Je peux compter tous mes os. Toi, Seigneur, tu m'abandonnes à la mort. Je n'ai trouvé aucun consolateur. Ne me laisse pas voir la corruption. Tous les prophètes qui ont précédé Jésus, je pense par exemple à Isaïe le prophète, qui était de race royale, de race sacerdotale. En plus, il était doué du pont de prophétie, c'est lui. Il a vu lui aussi Jésus crucifié. Il le disait. Il a été ridiculisé, mis à la fosse, comme des lions, des chiens. Ils l'ont scié avec une scie à bois. Oui. Puis il est mort. Et on voit encore son tombeau. Il n'est pas ressuscité. Il a été livré à la corruption. Il a été livré à la mort. Et il est encore, il ne ressuscitera qu'au dernier jour. Eh bien, Jésus, lui, est plus immolé, plus crucifié que les prophètes. Et on voit dans le psaume 21, tous mes os, de me livrer à la mort. Mais il y a cette demande, enfin, cette perspective. Il y a à la fois cette parole, je n'ai trouvé aucun consolateur. Et puis en même temps, si cette coupe s'éloigne de moi, que ce soit selon ta volonté, si je peux échapper à la corruption, c'est-à-dire à la résurrection, au fond de la mort, trouver de quoi avoir la nature humaine, du feu, de l'amour qui se déploie sans entrave dans l'Esprit Saint, la consolation. En fait, le paraclet, le consolateur, les deux doivent s'associer, vous savez. Ça peut être que Dieu est inconsolable, le Père, mais le Père dans le Fils, et le Père dans le Fils et le Saint-Esprit. Dieu, en droite, Dieu est inconsolable. Et la seule consolation qui puisse me sarrer, si je puis dire, dans sa création, sa créature, qui prête librement à le dévaster. Enfin, il faut reconnaître, c'est invraisemblable. Il est inconsolable parce que tu es amour. Et la seule consolation, le seul consolateur, c'est l'Esprit Saint. Et bien Marie n'est pas Dieu. Et Saint Jean est l'union entre Marie et Jean, entre Marie, Joseph et Saint Jean, ce n'est pas Dieu. Et donc, je n'ai trouvé aucun consolateur. Parce que la toute-puissance de Dieu n'atteint pas la toute-puissance de rachat. Vous voyez ce que je veux dire? Avec l'union de la nature humaine de Jésus broyé, et puis l'Église broyée avec lui, en un, ça ne suffit pas à la charité, elle éclate, parce que le Consolateur, le Saint-Esprit lui-même, est apte, mais la charité du Christ, c'est-à-dire le cœur de Jésus entièrement brûlé, par une charité purement divine, ne suffit pas. Il faut que ce soit la personne elle-même qui puisse la personne de Dieu. C'est dans sa propre personne. Et c'est pour ça que quand Jésus voit Saint Jean, hein, et Marie, à la communion, enfin, si je puis dire, avant la communion, parce que Judas n'a pas communié, on le voit qu'il communie après, donc la consécration n'a pas encore eu lieu, quand il voit les dispositions de cette tardéma, mais lumineuse et vivante, de ceux qui sont introduits dans son sacré cœur, dans le fond, dans la toute-puissance de consolation de sa propre personne divine, qui porte son sacré cœur, qui porte et le rayonne, pour lui permettre de dire le psaume 21, par exemple. Quand il voit que Marie et Jean ont atteint ce qui est en dessous de l'autel, qui est en dessous de l'autel, ça déclenche en lui à ce contact, le contact qu'il y a entre la lumière de gloire de sa vision béatifique et sa personne d'épousaire. C'est la deuxième personne de notre Sainte Trinité, la toute-puissance de Dieu. Alors du coup, il y a suffisamment de... comme ils sont... quatre en un, alors il peut dire le psaume 21, vivre le psaume 21 avant qu'il ne soit crucifié, et le vivre de manière telle que du coup il va pouvoir porter, hein, un sacerdotal, finalement il va pouvoir porter le mystère de sa croix glorieuse dès maintenant et la déposer dans l'Eucharistie. Alors, il célèbre l'Eucharistie et il établit le sacerdoce. L'institution du sacerdoce, c'est à ce moment-là que ça s'est fait, d'après le Concile de Trente. Et la médiation de toute royale de Marie s'est faite à ce moment-là. Ça a été déposé là. Et étant déposé, Jésus dit aussitôt, maintenant le Fils de l'homme est glorifié. Personne ne pouvait s'approcher de Jésus crucifié. Personne. Que, j'allais dire, ce dépôt des délices de Dieu associé à ce qu'il y a de plus insupportable pour Jésus lui-même. Parce que ce qui est broyé à la croix, c'est quand même une nature divine, enfin une nature humaine parfaitement, complètement, substantiellement accomplie, une charité divine parfaite. C'est ça qui est broyé sur la croix aussi. Eh bien, c'est insupportable. Alors du coup, comme il y a ce dépôt eucharistique, par une grâce prévenante déposée dans l'unité de Marie, Joseph et de Jean, de Trinité en un endroit. Alors à ce moment-là, il va à la croix, Jésus. Il va à l'agonie et il va à la croix. Et dans la croix, eh ben, il peut se laisser livrer à la mort. Et à ce moment-là, sa mort va plus loin que la mort rédemptrice des prophètes. Elle va plus profondément. Et elle est devenue nécessaire. Parce qu'elle est déposée jusqu'à la fin du monde. Dans tout ce que j'en éprouve. Et dans tout ce qui en rayonne et surabonde. Vous voyez ? Et du coup, il arrache Dieu. Dieu vivant arrache par sa toute puissance dans ce vaste argile de son agonie. Il arrache l'âme hors du corps. Et en faisant cela, le corps qui est suspendu, transpercé. Si on avait mis, m'excuse du détail, mais si on avait pu poser le doigt sur les lèvres, sur la langue, sur le palais de Jésus, on aurait vu que sa soif était tellement folle que c'était comme de la terre, de la boue sèche, complètement séchée, pas le moindre trace d'humidité, une soif inouïe. Vraiment, il n'y avait plus rien en lui. Alors quand son corps là était là, sec, comme un roc solide, transpercé, ouvert, plus aucune goutte d'eau n'en sortant. De cette béance, n'ayant plus rien, cette ouverture, sa chair anéantie, totalement inanimée, ouverte. Vous pouvez laisser passer la personne de Dieu lui-même. dans son éternité à travers cette faille, parce qu'il y avait quelqu'un, parce qu'il y avait un sacerdoce, le sien, et une fécondité assumée dans Dieu le Père pour le recevoir. Pour le recevoir, et donc dans son souffle, il a donné le paraclet. Il a donné le paraclet parce que la porte était ouverte sur la personne incréée et divine. Et quand l'épouse a disparu totalement dans l'époux incréé et qui est inconsolable, il a disparu. Et donc, quand dans sa nature humaine, il a connu la mort, il a été jusqu'au bout de cet effacement dans son union hypostatique. Et donc il a conjoint son effacement à l'intérieur, comme épousé, à l'intérieur de l'époux incréé. Et donc le Saint-Esprit est étonné. Et c'est là que la Pentecôte du Saint-Esprit a pu être communiquée à la nature humaine. Pas à sa nature humaine à lui, puisqu'elle était disloquée. La mort, le corps et l'âme étaient entièrement séparés. Donc c'était communiqué à la nature humaine. En ceux qui l'ont reçu et qui étaient disposés à le recevoir comme ce qu'elle était, dans ce qu'elle était et en pleine lumière de ce qu'elle était. C'est pour ça qu'on dit que la Pentecôte, c'est l'envoi du Saint-Esprit dans la nature humaine, unie, apostolique. Vous comprenez ça? Alors là, oui. Des consolateurs, je n'en ai pas trouvé, c'est vrai, mais là, à cet instant-là, Dieu a écouté sa prière. Le psaume 21 se termine comme ça. Tu m'as exaucé. Et le paraclet a pu être donné. Saint-Esprit peut être donné dans la nature humaine, dans la croix glorieuse. Et donc la nature humaine, par rayonnement, par union, par hypostase, on peut dire aussi, recevant la Pentecôte, Saint-Esprit qui a fondu dans la nature humaine de l'unité sacerdotale de Marie et de toute l'Église. Parce que Marie, dès qu'elle vivait quelque chose, elle vivait tout l'alpha jusqu'à son oméga dans un seul acte. Hein. Et Jean, il a pris Marie chez lui dans son sacerdoce surnaturel, qui était un sacerdoce de lumière. C'était un sacerdoce contemplatif immaculé. Il voyait les portes de la Jérusalem s'ouvrir. Il était libre de toute entrave pour y aller et venir avec Marie dans l'au-delà, dans la profondeur de l'unité des deux. Et donc il y avait Marie et Jean et l'Esprit Saint. Et il y a quelque chose de spensal, c'est pour ça. Ça, je ne veux pas revenir là-dessus. De très très fort. Et le fait qu'il y ait le consolateur qui a été donné, ça s'est diffusé dans le corps cadavérique du Christ, dans l'incorruption, ce qui n'arrivait pas au prophète Isaïe. Et la résurrection est donc la preuve que Jésus est source, comme personne, dans ça, dans l'instant de sa mort, est source de l'éternité incréée, de la troisième personne de la très sainte Trinité. Et si grand que soit un prophète ou un rédempteur dans notre monde, ça ne peut pas lui arriver. Même Isaïe. Et donc le fait que Jésus ressuscite d'entre les morts donne la preuve qu'il est le Dieu vivant lui-même en personne. Et que c'est sponsal. C'est du Dieu dans sa sponsalité, d'amour. Il est Dieu. Dans sa toute puissance. Et alors, nous sommes dans ces jours, quoi, voyez. Demain, c'est Saint-Sacrement, la fête du Sanctissime. Je crois que c'est ça. La fête du Sanctissime Sacrement, demain ou après-demain, dimanche. Et du coup, ça a fait naître le mystère johannique du baptême de la Jérusalem glorieuse dans la Jérusalem nouvelle. On fêtera le lendemain. Et du coup, 3 jours après, Sacré-Cœur, on va être porté à être transplanté dans notre vie chrétienne intérieure, non pas à nous envoler au-delà des délices des mariages spirituels purs, mais nous enfoncer au contraire très profondément dans la terre, parce que c'est sûr que la force que donne le Saint-Esprit dans la croix glorieuse, elle nous emporte pas au ciel. Il n'est pas ressuscité immédiatement, Jésus. Il a été immédiatement incorrompu. Et immédiatement embrasé avec Marie et Jean, dans son âme séparée du Consolateur. Et il s'est englouti avec Saint-Joseph. Parce que s'ils ne sont pas deux, ils ne peuvent pas en un. Alors, pour apporter cette première goutte, si je puis dire, de consolation à la première personne de la Très Sainte Trinité dans le face-à-face de la lumière de gloire, c'est pas aussitôt qu'il a ressuscité. Il est ressuscité le troisième jour. Et il a fallu tant qu'il y ait des allers, un retour le premier jour. Deuxième jour, le troisième jour, il a fallu qu'il y ait cette mise au tombeau. Il a fallu ramasser la meule sur le tombeau, c'est-à-dire ce qui est caché dans l'Eucharistie, fermé et scellé en plus dans les secrets. Et il a fallu les 19 heures qui ont suivi. Là, le rythme temporel du corps a joué un rôle pour qu'il y ait l'engendrement de l'incorruption, de l'incorruptibilité et de la consolation dans le cadavre de Jésus porté. Qu'une annonciation soit faite à Marie au jour de midi du grand sabbat, du samedi, pour dire oui et être assumé dans une terre de meuf vivante, mais portée par la personne du Saint-Esprit, cette Pentecôte hein, qui a fondu en elle dans son union avec le sacerdoce sacramentel de l'Église tout entière. Eh bien, Jean n'était pas en dehors de ça, n'était pas qu'un simple instrument. Le sacerdoce catholique n'est pas un sacerdoce qu'instrumental. Il y El mundus docenti, el mundus sanctificanti, et le mundus gubernanti. Eh bien, notre cœur, il faut qu'il soit dans cette lumière. Mais si ton cœur n'est pas dans cette lumière, alors il se trouve forcément dans les opérations de la terre. Et Jésus dans l'évangile dit non, il faut que ton cœur soit dans la lumière. C'est vrai, si tu es aveugle de naissance, t'as pas d'œil. Regardez, fermez bien les yeux, mais ici on ferme les yeux, il y a encore la lumière qui passe à travers les paupières, mais imaginez, pas la moindre, le noir total, le noir substantiel. Effectivement, Jésus dit, si ton, l'œil de ton corps et l'œil de, du corps de Jésus est rentré dans la ténèbre substantielle, le corps cadavérique du Christ, comme un aveugle de naissance qui n'a jamais, même, tu peux même pas concevoir ce que c'est. Petit point de lumière, de rien du tout. Si tes yeux sont dans la ténèbre, effectivement, tes mains sont dans la ténèbre. Tu peux le faire, ça c'est facile à faire comme exercice spirituel. De contemplation de la vérité du corps, la moindre cellule, même ton ADN, si je puis dire, presque, on pourrait dire, tout ce qui est corporel est dans la ténèbre, entièrement dans la ténèbre, entièrement, parce que l'œil, c'est la lumière du corps. Ça, c'est vrai pour un des cinq sensibles externes qu'on appelle la vision, l'œil. Il y a l'odorat, il y a l'ouïe, mais il y a la vue. Mais ton cœur, et c'est là que Jésus parle du Sacré-Cœur, ton cœur, s'il est dans la ténèbre, c'est toute la terre qui est dans la ténèbre. Et qu'est-ce que c'est que cette ténèbre? La dernière parole de l'Évangile. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, ces ténèbres-là, qu'est-ce qu'elles sont grandes! Elles sont immensément grandes. Et la lumière du Sacré-Cœur, la lumière du cœur, elle est donnée dans le royaume du Sacré-Cœur. Il y a quelque chose. Il y a dans l'évangile d'aujourd'hui un appel à comprendre que la vie contemplative surnaturelle, quasi incréée en nous, incarnée, elle nous est donnée comme un évangile, une bonne nouvelle. Que le Seigneur nous le donnera, nous le donne. Parce que le Père a entendu la parole du Fils dans les poussées. Dans le psaume 21. Et donc se préparer à être à l'intérieur de la lumière du royaume, du règne du Sacré-Cœur qui doit se répandre partout dans le monde. De formidable lumière, dans la lumière de l'Immaculée Conception, déployée en source de consolation du Saint-Esprit pour le Père et le Fils. Parce que Dieu est désolé, Dieu est inconsolable à cause de ses enfants. Demain, c'est samedi, et on pourra rentrer un petit peu, essayer de voir ce que la révélation, la bonne nouvelle de Jésus nous donne pour ce qui se passe en Marie, dans ces mystères de lumière. Sacré-Cœur. Déjà en un seul mot, quand on dit le rosaire, le Saint-Père de la spontanéité et de la révélation pour toute l'Église, du corps d'innocence primordiale dans sa signification sponsale, pour l'avènement 3 en 1 en 3 du corps spirituel venu d'en haut. Ce peuple-là, il a dit, Marie va engendrer en vous cette lumière. Et il a engendré, si je puis dire, avec elle, les 5 mystères lumineux du rosaire, qui sont des mystères de Marie. Il faut rentrer dans ces mystères de lumière, que ce soit notre lumière, notre cœur, c'est notre trésor, et notre trésor, c'est cette lumière du Sacré-Cœur de Jésus. À ce moment-là, vous voyez, la statue du Sacré-Cœur en plâtre, je ne dis pas que c'est bien, ça pouvait nous exciter à prier, à l'embrasser, à tout ce que vous voulez, hein. Comme un enfant, c'est possible, les meilleurs, certainement, mais dans le monde nouveau qui vient, là, dans le monde nouveau, c'est plus une dévotion, vous comprenez? C'est un trésor réservé au dernier temps, aux enfants. Dans le réenfantement, le réengendrement des enfants du monde nouveau. C'est pour ça qu'elle est baptisée du monde ancien. On a 2000 ans de christianisme, il faut qu'ils se lèvent tous d'un seul cœur dans les messes qui viennent, les 5 messes qui sont là, qui arrivent. Ils se lèvent tous d'un seul cœur pour rentrer dans le monde nouveau. Mis en place, institué par le Saint-Père. À l'instant et à la minute. Et à l'heure que tu as décidé pour en ouvrir des trésors, c'était la fête de la préparation. L'Eucharistie n'a plus du tout la même signification. C'était la fête de la préparation. Si tout ça a pu se passer, c'est parce que le Fils de l'homme a été glorifié dans cette unité profonde, lumineuse, surnaturelle et chrétienne des délices qui porte Sacré-Cœur à se déposer lui-même dans son rachat, dans le sacrement et l'institution de l'hostie. Alors à ce moment-là, il peut. Sinon, vous voyez, hypothèse complètement absurde, s'il n'y avait pas eu l'hostie, s'il n'y avait pas eu l'Église, s'il n'y avait pas eu l'Église, s'il n'y avait pas eu Saint Jean, s'il n'y avait pas eu Marie, s'il n'y avait pas eu la Sainte Famille, l'Église, quoi, la famille des sauvés, des rachetés, des sanctifiés, s'il n'y avait pas eu, eh bien, il serait mort, comme Isaïe, c'est quand même le Fils unique de Dieu, il ne serait pas ressuscité tout de suite. Ressuscité à la fin du monde, on aurait tous été sauvés. Donc l'Eucharistie, c'est pas rien, je veux dire. Hein? Mais parce qu'il y a l'hostie, il y a cette possibilité extraordinaire mais vraiment extraordinaire, du royaume de Dieu, du règne du Sacré-Cœur qui doit se répandre partout dans le monde, et dans le fond intime de les déterminations lumineuses de la matière elle-même, et du monde angélique aussi. Je sais pas si c'est vrai ce que je viens de dire, mais c'est loin d'être inexact, parce qu'on fait pas la théologie de ce qui aurait pu arriver, on fait la théologie de ce qui est révélé du réel et de la vérité. Donc on ne faut pas faire des supposons que Marie ne soit pas Immaculée Conception. Mais il n'y a pas à supposer, puisqu'elle l'est. Ça ne sert à rien, ça, c'est des élucubrations apocryphes. Ridicules, hein. Supposons que. Non, c'est pour ça, il ne faut jamais faire ça. Mais on évoque quand même ceci, c'est que, parce qu'il y a l'institution de l'Eucharistie, le Christ est glorifié, ça oui, ça oui. Maintenant, le Fils de l'homme est glorifié. La fin du monde peut être rendue présente. Dès maintenant. 2, 3, 4 000 ans avant. Qu'elle soit vue par l'ensemble de l'univers. Donc l'espace eucharistique est créé, du coup. Et du coup, eh ben, il peut se livrer. Il peut se livrer. Il peut se livrer à la divine et éternelle volonté de Dieu. Un sacrifice immaculé et substantiel pour faire déployer à l'intérieur cet anéantissement l'arbre de vie, de l'acte pur du Saint-Esprit en personne. Enfant du monde nouveau, tu es l'incarnation de l'évangile. Tu es l'incarnation du royaume éternel de Dieu. Se lever pour y aller.